Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous retrouve aujourd'hui en direct de Lyon où se tient un rendez-vous majeur pour la santé mondiale, la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À la fin des années 90, l'idée de créer une structure pour financer la riposte contre les pandémies au niveau mondial a fait son chemin au moment même où la recherche progressait et offrait aux personnes séropositives la perspective d'être traitées avec l'avènement des trithérapies. Le Fonds mondial a vu le jour en 2002 et depuis, on estime que ces programmes ont contribué à sauver près de 32 millions de vies. De réels progrès sont enregistrés dans la riposte au VIH-Sida en termes de survie des patients, de baisse des infections. Résultat aussi sur le front du paludisme avec une mortalité qui a chuté de 60% depuis l'an 2000. Des avancées permises par la conduite de programmes à la fois vastes et ciblés pour correspondre aux réalités locales sans renoncer à des ambitions globales d'amélioration des systèmes de santé pour un accès à des soins mieux partagés et plus sûr. Une lutte contre les pandémies aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. La mesure des enjeux a été admise par les pouvoirs publics. Les acteurs de la société civile ont été reconnus, intégrés dans la riposte. Ces résultats restent directement dépendants de la mobilisation financière, mais elle ne doit pas occulter l'impérative nécessité de ne laisser aucune communauté exclue de cette riposte. C'est bien tout l'objet de cette 6e conférence, dont les résultats seront connus jeudi à la mi-journée. Objectif affiché, 14 milliards de dollars. Pourquoi faire? Pour soigner qui et comment? Aujourd'hui dans Priorité Santé, des réponses avec des acteurs de terrain. Priorité Santé en direct de Lyon. Aujourd'hui, les attentes et les enjeux à la veille des résultats de cette conférence du Fonds mondial. Qu'en attendez-vous? Pour quel projet? Question que je vais poser à mes quatre invités présents dans notre studio. Docteur Safia Toutiam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Coalition Plus Afrique, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, ancienne ministre de la Santé du Sénégal. L'Afrique de l'Est avec nous, Amanda Douchimé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ambassadrice du réseau Grandir Ensemble, père éducatrice pour l'Association nationale burundaise de soutien pour les personnes vivant avec le VIH et les malades du sida. L'océan Indien, Cindy Urdoyal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association CUT République de Maurice. Et avec nous également, Dr Louis Pizarro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'ONG Soltis, chef de file de la commission santé de coordination sud, qui regroupe une vingtaine d'organisations non gouvernementales spécialisées dans le secteur de la santé.
Priorité santé sur RFI.
On sent le poids des enjeux, hein, lutte contre le VIH-Sida, tuberculose, paludisme, qui a donc, hein, on l'a entendu, on l'entend tous les jours, enregistré de réelles avancées au cours des dernières décennies. Docteur Louis Pizarro, vous retenez ces avancées ou plutôt l'expression au sujet des résultats, nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce qu'il faut se réjouir ou est-ce qu'il faut rester en alerte?
J'ai envie de vous répondre les deux, bien entendu. Non, il faut d'abord faire un bilan important de ces 15 années qui ont été spectaculaires. Hein. Jamais, je pense, non seulement dans le milieu de la santé, mais aussi dans le milieu de l'aide au développement, il y avait eu une telle mobilisation internationale, pas seulement financière d'ailleurs, hein, mais aussi opérationnelle, avec énormément de nouveaux acteurs, et surtout, et je pense que c'est ça qui est aussi révolutionnaire, avec une participation des usagers et des personnes affectées par les maladies qui ont été en premier lieu. Donc il faut se réjouir de ce mouvement-là qui est très important. Comme vous l'avez dit, par contre, il faut rester alerte. D'abord, en matière de santé, à côté de ces maladies infectieuses, nous avons aujourd'hui aussi l'arrivée de manière très forte des maladies non infectieuses comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Donc il faut qu'on ait des systèmes de santé qui soient forts pour pouvoir répondre à ce double enjeu auquel les pays font face. Et puis, de manière plus générale, à côté de la santé, nous avons d'autres secteurs aujourd'hui aussi qui poussent à la porte, l'environnement, l'éducation. Et donc, il faut savoir créer des liens entre la santé et les autres secteurs pour pouvoir répondre ensemble à ces enjeux de demain.
Alors justement, état des lieux 2019, je m'adresse, vous êtes tous deux médecins de santé publique, hein, je m'adresse à vous, docteur Safia Toutiam. Pour les trois grandes maladies, si on prend l'exemple du Sénégal, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui a changé au cours, on va dire, de cette décennie écoulée?
Alors, pour le sida que je connais très bien, les nouvelles infections ont reculé de plus de 30%. Les décès également ont baissé. Et le nombre de patients mis sous traitement a énormément augmenté. Aujourd'hui, au Sénégal, 71% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Et près de 80% des personnes qui connaissent leur statut sérologique, 84 précisément, a accès au traitement antirétroviral. Donc, il y a eu énormément d'avancées. Le paludisme, qui était la première cause de morbidité et de mortalité, est en train de beaucoup reculer. Il reste beaucoup d'efforts à faire pour la tuberculose, mais on peut retenir qu'il y a eu vraiment des avancées significatives avec l'accès au Fonds mondial.
Des résultats, restés mobilisés, poursuivre le mouvement. Justement, le slogan du Fonds mondial, accélérer le mouvement. Donc c'est également une question de moyens financiers pour la recherche scientifique, pour aussi connaître les comportements. C'est très important parce que si on parle beaucoup d'argent, docteur Louis Pizarro, vous l'avez dit tout à l'heure, les acteurs sont impliqués. On ne doit jamais oublier cette dimension de l'action des patients, de l'action des médecins, de cette communauté qui lutte contre les maladies.
Absolument. Je pense que d'abord dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord, on se souvient tous de la mobilisation que associations comme ACT UP, comme AID ont pu porter à une époque. Elle a influencé sur ce qu'en France aujourd'hui on appelle le droit des malades au niveau des structures de santé, et on le doit beaucoup à cette mobilisation. Et au niveau aujourd'hui de la planète, on voit que cette mobilisation s'est étendue partout. Et donc on demande aujourd'hui aux patients, et encore une fois j'insiste, il n'y a pas que les patients, il y a les usagers du système de santé. Le système de santé a vocation à garder les gens en bonne santé, et donc c'est pas seulement les malades aujourd'hui qui sont consultés, mais c'est nous tous qui à un moment donné avons aussi besoin d'avoir accès à des services de prévention qui sont aussi très importants. Et donc c'est une révolution que je pense le Fonds mondial a porté avec lui. Il faut pas oublier que au sein du conseil d'administration du Fonds mondial, les patients, les ONG du Sud, les ONG du Nord, les pays qui reçoivent de l'aide et les pays qui en donnent, tous sont représentés autour de la table. C'était la première fois qu'une organisation internationale aussi importante mettait en place ce type de gouvernance. Et donc c'est un acquis sur lequel il faut construire.
C'est cette dimension de partenariat, plusieurs générations autour de cette table. Amanda Douchimé, je vous ai présenté tout à l'heure, vous portez la voix des adolescents. Et d'ailleurs, cette voix, elle va s'adresser directement demain au président de la République, Emmanuel Macron, lors d'une table ronde. Vous pourrez l'interpeller, lui poser des questions. Vous avez prévu des choses, je ne vais pas vous demander de dévoiler avant l'heure, mais vous n'allez pas trop le malmener, ça va se passer comment?
Évidemment, comme vous le dites, bon, je serai avec le président Macron, mais oui, je vais lui poser certaines questions pour ce qui est de l'avancement. Pour ce qui est de l'avancement et surtout ce qui est la prise en charge et aussi l'amélioration des jeunes, surtout dans la société. Évidemment.
Alors, une voix des adolescents, vous venez du Burundi. Oui. Là-bas, vous allez rencontrer vos pères, d'autres jeunes. Comment ça se passe? Vous leur racontez votre histoire? C'est toujours comme ça que ça se passe pour commencer, avant d'aller vers eux?
Non, pas évident. C'est en fait, ça dépend en fait. Par exemple, si on a un père qui vient apprendre son statut sérologique, tu peux pas lui dire, ah, mais bon, moi aussi je suis comme ça. Mais non, quand même, il y a quelque chose que tu dois d'abord. Tu dois le comprendre. Oui, c'est dévastatrice d'apprendre que qu'on est séropositif, mais aussi le meilleur moyen, c'est de le recueillir, de lui dire que la vie ne s'arrête pas là, mais aussi qu'on continue, quoi. L'avenir est toujours la nôtre.
L'association, vous êtes ambassadrice pour l'association, le réseau Grandir Ensemble, Amanda oui. Douchimé. Grandir Ensemble, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Grandir Ensemble, c'est une organisation par lesquels il y a de sous-organisations avec SIDA Action, je dis bien, et par lesquels ça travaille avec une autre association, au Burundi, le Togo, le Mali. Il y a de sortes de secteurs avec qui on travaille pour ce qui est la lutte contre le VIH, en fait.
Et quand on a 18 ans, quand on devient porte-voix, justement, de cette communauté, ça se passe comment? Comment on continue à vivre, malgré tout, une vie d'ado, une vie de porte-voix, de père éducatrice, d'étudiante et puis de patiente? Comment on fait tout ça de front?
Ben, quand même, c'est un petit peu des échelons qu'on doit passer, en fait. Ben, pour le vivre, c'est normal. C'est normal et on se dit qu'on le fait pour la bonne cause et pour ce qui est des efforts faits au passé. Ben, vous voyez maintenant, le verre est à moitié plein. Alors nous aussi, les jeunes, on a envie de s'intégrer, d'apporter notre effort pour ce qui est de l'avancement et dans l'amélioration de la prise en charge, surtout des jeunes et adolescents et enfants aussi, vivant avec le VIH.
Et c'est important de donner un visage, justement, à ces patients, quand on va demain rencontrer le président français, dire, voilà, c'est pour moi que vous travaillez aussi, c'est pour mon avenir et l'avenir des gens comme moi.
Évidemment, c'est cela, parce que moi aussi je suis concernée en tant que telle, et là je vais montrer au monde entier que, oui, on est là, et aussi s'ils peuvent le faire pour moi, ils le feront aussi pour les autres qui sont... Bon, derrière moi, en fait, qui n'ont pas eu la chance d'être ici présente, mais quand même, qui sont là. Et leur voix compte, et leur effort aussi compte.
Merci. Alors, proximité des acteurs de terrain qui s'engagent dans cette lutte contre le VIH-SIDA, justement, cette expertise de ceux qui connaissent mieux que tous les autres, hein, la maladie, ce que ça fait dans son ressenti, dans son corps, dans son esprit, dans la relation qu'on a avec les autres. Et puis, la transmission, la prévention, donner toutes ces informations. Cindy Urdoyal, vous êtes ancienne usagère de drogue, et aujourd'hui, vous allez dans les communautés, ce qu'on appelle les populations cibles, les personnes qui sont les plus complexes à atteindre. Comment ça se passe?
Bah, on a tout d'abord, on a une caravane de santé au sein de l'association et on bouge à travers toute l'île. On fait l'échange de seringues et le dépistage rapide pour le VIH et les hépatites. Et aussi, on anime aussi des causeries avec la communauté pour les informer par rapport aux méthodes de réduction des risques. Et pour faire de la prévention aussi du VIH et des hépatites.
Alors on imagine, quand vous allez au début dans certaines communautés, on doit vous regarder un petit peu avec réticence. Comment justement on fait passer le contact, on fait passer le courant pour que la confiance s'installe?
Vu que moi-même je viens de la communauté des injectrices de drogue, alors c'est pas difficile du tout. Il y a la confiance qui est là. Parce que mes pairs, ils se reconnaissent quand ils me voient, le courant passe directement, c'est facile, c'est pas compliqué. Ouais. Ils s'identifient en moi.
Pourquoi?
Parce qu'on a le même langage.
On trouve les mots.
On a le même langage. Ouais.
Et le même bagage. Est-ce que vous êtes amené justement à parler de votre propre expérience pour que les choses se passent mieux ou ils n'en ont pas besoin? Vous êtes davantage, comme le disait tout à l'heure Amanda, vraiment dans cette écoute?
Je suis dans l'écoute et aussi des fois je parle de mon propre expérience parce que ils me demandent Cindy, pourquoi, comment t'as fait, comment t'as fait toi, tu travailles, tu peux assumer ton rôle de mère pleinement. Je leur explique que il y a, comme chez nous à l'île Maurice, il y a le programme de la méthadone qui est financé par le Fonds mondial. C'est un accès pour vous au traitement, tout ça.
La méthadone, une substitution à l'héroïne qui permet d'arrêter de s'injecter de la drogue, donc d'arrêter d'être confronté au risque de transmission.
Oui, voilà.
Avec aussi pour cela l'échange de seringues pour avoir des seringues propres. Docteur Louis Pizarro, on voit bien là le va-et-vient entre quelque chose qui peut paraître assez touffu, assez vague, ce fonds mondial, hein, une sorte de chose tentaculaire, et puis très concret, ce qu'on fait de cet argent, parce que des fois, les gens se disent, oui, on parle de milliards, on brasse beaucoup d'argent, mais finalement, ça sert à quoi? Là, on vient d'entendre, c'est du concret.
Absolument. Et heureusement que c'est du concret, que les personnes aujourd'hui qui vivent, comme l'a dit ma collègue du Sénégal, grâce à ces investissements massifs du Fonds mondial, sont là pour en témoigner. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que plus on a des patients qui prennent des traitements. Vous savez que malheureusement le VIH aujourd'hui est une maladie chronique, on n'a pas encore trouvé un médicament pour le guérir. Ça veut dire que toutes ces personnes-là vont continuer à avoir besoin d'avoir accès à ces traitements. Et donc les besoins du Fonds mondial grandissent au fur et à mesure qu'il a du succès. Et donc ce n'est pas aujourd'hui demander de l'argent comme ça en l'air que la plupart de nos associations et de nos structures demandent à la communauté internationale et en particulier au président de la République en France. C'est bien parce que les besoins que viennent d'illustrer mes collègues ici autour de la table sont grandissants. Et il ne faut pas qu'on baisse les bras. On a tous ces succès dont on s'est réjoui tout à l'heure, mais il suffit que la communauté s'endorme pour que ces épidémies repartent à la hausse. Et on doit absolument aujourd'hui rester attentif par rapport à ça.
Il faut garder le contrôle. Alors, sans entrer dans des considérations trop techniques, comment est-ce que ça se passe au niveau des arbitrages? On ne va pas parler de distribution d'argent, mais ça ressemble un peu. Comment on décide des priorités, des bénéficiaires? Alors, je ne sais pas qui d'entre vous veut répondre. Peut-être vous, docteur Safia Toutiam. Comment ça se passe entre les ressources du Fonds mondial et un patient, je ne sais pas, jusqu'à Ziguinchor, jusqu'à Thiès, je ne sais pas. D'où part l'argent? Où va l'argent?
En réalité, le cycle est bien maîtrisé. Le Fonds mondial annonce une enveloppe en fonction des catégories des pays. Donc, annonce une enveloppe pour le pays. Et exige du pays que les gens se mettent ensemble pour décider de où va justement cet argent. Comment le faire? C'est avoir un plan stratégique, c'est une vision claire sur au moins 5 ans de ce qu'on veut faire et quels résultats on veut obtenir. Dans le cadre d'un dialogue pays, on met tout le monde ensemble, y compris les personnes vivant avec le VIH, les populations clés, les différentes catégories de populations clés définies dans la stratégie nationale. Donc, on met tout le monde ensemble et on décide ensemble des priorités. C'est vrai que c'est beaucoup de discussions, mais on aura réfléchi avant sur les priorités du pays, les enjeux, bien entendu, les orientations du Fonds mondial, et voir qu'est-ce qui est plus facile, par exemple, à négocier avec le Fonds mondial ou avec le pays. Vous comprendrez que les questions sur les populations clés sont difficiles souvent à négocier dans le cadre des fonds du gouvernement. Donc, c'est des questions comme ça, donc, qui sont prioritaires pour le Fonds mondial. Et donc, ce sont ces priorités qui sont négociées avec le Fonds mondial.
Allez-y.
Maintenant, une fois les fonds arrivés, ces fonds sont redistribués parce que nous, notre rôle, c'est de mobiliser ces ressources, mais c'est de les distribuer au niveau des structures de santé, au niveau des ONG, des associations qui vont maintenant utiliser ces financements jusqu'au niveau des bénéficiaires. Donc, il y a toute une cartographie qui va montrer le pourcentage de chaque partie prenante et ce qui va arriver jusqu'au niveau des bénéficiaires.
Avec les ONG, ONG comme la vôtre Soltis, qui va être en contact avec d'autres qui sont localisés au plus près justement des communautés.
Oui, absolument. Alors, juste une petite chose rapidement par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure. C'est vrai que le Fonds mondial tient compte de deux éléments importants au moment de distribuer ces enveloppes au pays. C'est d'abord le poids de 3 maladies au niveau de chacun des pays. Il n'est pas le même, évidemment, aujourd'hui en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine. Donc, il faut avoir en tête cette donnée épidémiologique. Et deuxièmement, une donnée économique. Les pays aujourd'hui avec les ressources financières les plus faibles seront prioritaires et on assiste à un vrai problème parce qu'il y a des pays qui sont ce qu'on appelle un revenu intermédiaire comme les pays d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est qui aujourd'hui commencent à sortir du cadre du Fonds mondial.
Mais qui ne sont pas encore renforcés suffisamment.
Exactement, avec des problèmes qui vont derrière. Donc ça c'est, je pense, quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ensuite, au niveau du terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est de tenir compte des spécificités de chacune de ces régions. Aujourd'hui, le Sénégal, par rapport au Kenya, par rapport, à la Bolivie, par exemple, vont avoir des épidémies très différentes, vont avoir des ministères de la Santé aussi qui fonctionnent de manière très différente. Et donc, il faut s'adapter à ça. Les ONG internationales, comme Soltis, aujourd'hui, on joue un rôle qui est plus un rôle intermédiaire. Mmh. C'est-à-dire que, heureusement, et le Fonds mondial, je pense, insiste là-dessus, c'est les pays c'est les ministères de la Santé ou les conseils nationaux de lutte contre le sida, comme au Sénégal, qui sont aux commandes, qui reçoivent les fonds et ensuite qui distribuent. Et nous, notre rôle, c'est tout simplement de venir apporter, là où c'est nécessaire, une expertise technique, un appui comme ça très concret et spécifique aux acteurs de terrain.
Alors le débat se poursuit, vous restez avec nous dans Priorité Santé.
RFI à Port-Louis, 93.2 FM. Dakar, 92 FM. Bujumbura, 96.1 FM. Priorité Santé sur RFI.
Et toujours en direct de Lyon à l'occasion de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous sommes toujours en compagnie des quatre invités de Priorité Santé. Un certain nombre d'engagements chiffrés ont déjà été annoncés. Il y a eu des promesses. Certains pays ont d'ailleurs sensiblement augmenté leur contribution. On peut citer le Royaume-Uni, plus 20%, l'Allemagne, plus 17%, 15% pour le Canada, et la France, elle, l'hôte de cette conférence, elle attend encore demain, elle réserve son annonce donc jusqu'au dernier moment, et puis il y a ces sommes, il y a des promesses, il y a des actions, il y a aussi une certaine pression qui a été exercée sur la France, justement, en tant qu'hôte de cette réunion, on ne va pas insister sur cette dimension politique, mais quand même, on attend un geste du président Emmanuel Macron, docteur Luis Pizarro, donc la France jusqu'au bout, on va dire, maintient le suspense. Quel sens est-ce que vous donnez justement sur une question aussi primordiale que la lutte contre ces trois pandémies? Est-ce que ça a vraiment un sens de faire monter les enchères de la sorte? Moi, je m'excuse, mais je me suis posé cette question. Est-ce qu'il n'y a pas, moi j'y vais, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'indécence à dire on attend demain 12h28 pour donner le résultat? C'est quand même une question de santé publique qui se joue, c'est pas un effet d'annonce, non? Je ne sais pas.
Bah, on espère, justement. On sait aujourd'hui, je pense que le président Emmanuel Macron a manifesté sa volonté de faire revenir la France au sein des instances multilatérales et d'avoir une action à l'international qui soit plus forte auprès des organisations des Nations Unies, auprès des différentes organisations multilatérales. Donc, c'est vrai que le Fonds mondial est une de ces instances multilatérales, et on ne peut pas imaginer qu'il passe à côté de cette possibilité de garder la France comme un acteur majeur de la santé mondiale. À côté du Fonds mondial, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres acteurs. Il y en a un qui est très important, avec dont la France et le président Chirac étaient à l'origine, c'est United. Mm-hmm. Et c'est la complémentarité qu'il y a aujourd'hui entre ces acteurs, d'abord, qu'il faut maintenir, c'est-à-dire United, par exemple, nous travaillons avec eux pour développer l'autotest VIH, c'est-à-dire on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du mal à aller vers les centres de santé pour se faire dépister, notamment au Sénégal, avec le ministère de la Santé et les collègues sur le terrain, nous travaillons là-dessus, et on propose aujourd'hui de tester une nouvelle solution, qui est un dépistage qu'on peut faire soi-même directement. Bah, ça, c'est financé par United, et si jamais ça marche et qu'on montre que c'est une bonne solution, le Fonds mondial vient derrière et finance à plus grande échelle. Donc ça, c'est une première chose, les complémentarités. Mais il y a une deuxième complémentarité qui est avec l'action qu'on appelle bilatérale française, c'est-à-dire à travers notre agence, qui s'appelle l'Agence française de développement. Et donc ça aussi, on attend beaucoup du président, c'est de dire on garde la France dans une bonne place au niveau international et on fait agir nos moyens bilatéraux comme l'Agence française de développement en cohérence dans ce système qui doit aller ensemble. Et c'est ce qu'on espère de lui.
Alors des auditeurs ont réagi quand on a annoncé le thème de l'émission. Ahmed au chat par exemple a dit sur Facebook, le problème c'est le détournement des deniers publics. Ils demandent de la transparence aussi, les auditeurs qui voient directement ce qui se passe. Et puis un autre, Bernard à Cotonou, qui regrette que certains fonds ne soient pas accessibles. Docteur Safia Toutiam, on a vu un nouveau nombre de patients éligibles par exemple au programme d'antirétroviraux au Sénégal. Plus de personnes touchées, mais les gens qui sont dans les pays, qui sont les premiers concernés, disent qu'est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus et surtout comment savoir si cet argent arrive aux bonnes personnes.
D'abord, je le reconnais, ce droit vraiment à l'information, à la redevabilité. Les personnes qui gèrent les financements de manière générale pour les populations doivent régulièrement informer de l'utilisation des financements. Donc, c'est des questions qui sont très légitimes. Le Fonds mondial exige vraiment la mise en place de procédures pour utiliser l'argent, pour que l'argent puisse arriver là où il doit arriver. Mais je crois que le plus important, c'est l'information. Les gens n'ont pas toujours la bonne information de comment cet argent est utilisé, comment cet argent est dépensé, ce que nous faisons et quels sont les résultats. Je pense que, oui, les pays doivent plus communiquer, le Fonds mondial communique beaucoup, mais c'est au niveau global, mais au niveau des pays, le Fonds mondial n'a pas d'agence au niveau des pays, c'est un CCM, une instance de coordination qui représente le Fonds mondial et tout le monde n'est pas dans cette instance. Donc ce sont ces instances qui sont un échantillon du pays qui représente le Fonds mondial, qui doivent plus communiquer à travers donc tous les canaux de communication pour justement que les populations comprennent que cet argent est utilisé à des fins pour acheter des médicaments, pour acheter des réactifs, pour en tout cas rendre pour améliorer l'accès à des populations. Maintenant, nous utilisons beaucoup également ces financements dans le cadre des programmes à destination des populations clés. Mm-hmm. Et vous comprenez que dans notre contexte, il est difficile de communiquer beaucoup sur ces questions, justement pour ne pas mettre en danger ces populations avec qui nous travaillons, qui sont vraiment charnières dans la lutte contre le sida. Donc, c'est beaucoup de contradictions, mais je suis d'accord qu'il faut communiquer, il faut rendre compte de l'utilisation des financements.
Population cible, les professionnels du sexe, les usagers de drogues injectables et les hommes qui ont des relations. Voilà, donc on dit toujours le contexte culturel, les difficultés, parce qu'il existe aussi dans un certain nombre de pays, on peut le dire, un contexte répressif, et puis aussi l'opinion publique qui ne permet pas justement d'atteindre ces populations qui sont pourtant celles qui en ont le plus besoin. Nécessité de transparence, nécessité de prévention, mais aussi Amanda Douchimé, je ne vous ai pas donné la parole beaucoup, comme Cindy, on va vous entendre maintenant. Ces ressources, c'est très important d'en avoir, c'est important d'avoir des médicaments, mais encore faut-il que les personnes à qui on s'adresse aient de quoi manger. Et c'est quelque chose que vous rencontrez sur le terrain, Amanda. Quand vous êtes au Burundi, les gens disent « D'accord, on me donne des médicaments, mais il se trouve que je me sens pas très bien, non pas parce que j'ai pas les médicaments, mais parce que je mange pas suffisamment, tout simplement. »
Évidemment. C'est parce que, surtout chez nous au Burundi, maintenant, on traverse une certaine crise économique, et là, ce qui un petit peu touche la population. Mais nous, le réel problème, c'est comment répondre réellement à ce besoin. Et là, on est un petit peu bloqué, parce qu'on ne peut pas dire, je viens te parler du traitement, tu dois faire ça et ça, alors que tu viens de passer 2 jours sans rien prendre. Déjà, ça nous demande beaucoup, ça affaiblit déjà le corps, et en plus, injecter le médicament dessus, c'est impossible.
Alors, oui. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende mieux, parce que ce que vous dites est très intéressant. Ce serait dommage d'en rater un morceau. Quand vous faites ça, justement, vous arrivez dans une famille, on vous dit d'accord, vous venez me parler de médicaments, Amanda Douchimé, mais moi je n'ai pas de quoi donner à manger à mes enfants. Mais qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Mais quand même, nous on peut rien répondre, parce que ce n'est pas notre fardeau, quoi. En fait, mais nous, en fait, on est interrogé sur ce qui est de l'approche et de l'accompagnement. Et là, quand on rencontre ce problème-là, ça freine aussi de ce qui est le développement. Donc, oui, il est vrai, il y a certaines choses qu'on demande au Fonds mondial pour que il y ait aussi l'accès au un financement suffisant pour que on puisse aussi toucher à ce genre de besoins. Surtout que je peux dire, il y a quelque chose que je voudrais demander à docteur.
Docteur Thiam.
Voilà. Mais pour le cas du Congo, il y a quelque chose que je veux demander sur cela. Maintenant, on voit qu'il y a certaines ruptures qui persistent, quoi. et de suivi biologique qui sont quasi insuffisants. Donc, pour cette population-là aussi, en tant que jeune, surtout qui parle pour l'Ouest, le Centre, vraiment, je clame pour cela. En fait, je déclare pour qu'il y ait une certaine action pour ce cas-là.
Sur les ruptures des accès au traitement, sur les structures de santé qui sont inefficaces ou qui ne sont pas présentes, on entend ça, c'est vrai qu'on focalise sur certaines maladies, et puis à côté de ça, quand on se trouve dans certaines régions de RDC, par exemple, on sait qu'il n'y a pas d'accès à des traitements de base, quand un enfant a une pneumonie, quand un autre a une diarrhée, on parle des antirétroviraux, mais il n'y a pas les services de santé de base. C'est une véritable problématique. Au début, tout à l'heure de l'émission, vous avez parlé justement de cette approche globale, docteur Safia Toutiam, mais ça le pointe, il est indispensable d'offrir des services de santé à la hauteur contre les pandémies, mais contre toutes les maladies.
Vous avez raison, mais le cas des enfants est préoccupant. Et vraiment, il faudrait qu'on s'arrête sur le cas des enfants, de la prise en charge des enfants. Même si nous avons d'assez bons résultats, entre guillemets, pour les adultes, nous avons ce que nous appelons une injustice au niveau des enfants. Là où 71% d'adultes est dépisté, c'est peut-être 32% chez les enfants. Là où peut-être 70% des adultes ont accès au traitement chez nous, c'est peut-être 30% des enfants. Donc, c'est dramatique. Et un autre chiffre très important, c'est 32% des nouvelles infections chez nous proviennent de la transmission mère-enfant. C'est des enfants de 0 à 4 ans. 60% des infections, c'est des jeunes entre 0 et 24 ans. Donc ça, c'est alarmant. On se demande, mais est-ce que cette épidémie n'est pas encore en train de rebondir avec ces jeunes qui sont en train de s'infecter?
Et comment on l'explique? Comment on l'explique justement qu'on n'arrive pas à toucher cette tranche-là? Pourquoi?
Les jeunes enfants, c'est la transmission mère-enfant. Donc, il faut qu'on élimine cette transmission
alors
mère-enfant.
Alors qu'on sait bien que si on met les mères sous antirétroviraux, il n'y a pas de transmission.
Oui, mais ça veut dire aussi que les systèmes de santé sont assez forts pour que, prendre en charge toutes les femmes enceintes, leur proposer le dépistage et le traitement systématique. Donc, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Je pense qu'on peut et on doit arriver à d'abord éliminer la transmission mère-enfant. Ça nous permettra d'éliminer un tiers des infections. Maintenant, pour la prise en charge des enfants, je voudrais arriver à ça. Nous avons remarqué que non seulement les enfants n'ont pas accès au dépistage et au traitement, mais les quelques enfants qui ont accès au dépistage et au traitement ne guérissent pas bien, développent des résistances. Et pourquoi? Parce que justement, il y a le problème d'accès à la nutrition. Les enfants vous disent, quand on prend les médicaments à jeun, je vomis le médicament. Donc, cet enfant qui n'a pas pris de petit déjeuner, vous voulez lui faire avaler un comprimé, c'est compliqué. 40% des enfants sont orphelins. Alors, orphelins, prise en charge par quelqu'un de la famille, certainement la plupart des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, cette famille...
Il manque un accompagnement.
Si cette famille a l'équivalent de 1 euro ou 10 euros, ils vont plus acheter à manger que d'amener un enfant et acheter une ordonnance. Donc, le VIH pédiatrique, c'est pas seulement un problème médical, c'est aussi un problème social.
Amanda Duchimé, j'imagine que c'est un message que vous ferez passer demain au président Emmanuel Macron.
Évidemment.
Pensez, centrez sur les enfants et sur les populations cibles. Tout à l'heure, on a parlé justement de ces populations plus compliquées à atteindre. Sidi Urdoyal, au niveau du contexte de répression, comment ça se passe à Maurice? Vous pouvez vraiment aller au cœur des communautés où il faut encore travailler dans une forme de clandestinité?
Je dirais qu'on peut aller sur le terrain parce que, comme je vous ai dit, on est, comme moi, je suis père éducatrice, ben, je suis mieux acceptée parmi la communauté. Et aussi, des fois, on a des problèmes, mais on se confronte quand même à des problèmes par rapport à la police. Il y a des gens qui n'osent pas nous retourner leur matériel d'injection sale de peur de se faire arrêter. Bah, Il y a quand même des petits soucis qu'on fait face.
Et justement, il y a une action qui est faite auprès des autorités, des pouvoirs publics pour limiter ce genre de stigmatisation et tout simplement de répression, pour avoir une prise de conscience que si on n'atteint pas ces populations, eh bien toute la communauté, tout le pays va en pâtir, parce que c'est là qu'il faut agir.
Ben, comme je suis aussi la représentante de ma communauté sur les instances de coordination du Fonds mondial à l'île Maurice, alors je prends toutes les doléances de ma communauté et je les emmène sur ce plateforme où il y a plusieurs ministères qui sont là, et ensemble on essaie de trouver des solutions à des problèmes par rapport au terrain, par rapport à des problèmes qu'on a sur le terrain.
Ouais. Faire remonter l'information, justement, c'est essentiel, Amanda Douchimé. Comprendre ce qui se passe, comme tout à l'heure quand vous parliez de la dénutrition, aller voir des personnes qui sont fatiguées par, non pas la maladie, mais par d'autres problèmes, et aller jusqu'aux autorités, jusqu'à des responsables, et leur dire, voilà ce qui se passe, j'ai été témoin de ça, voilà ce qu'il faut changer.
Oui, en fait, ce que je pourrais dire, comme bon, pour ce qui est du changement qu'ils doivent y être, vraiment, je dirais que ils devraient un petit peu impliquer plus les jeunes. Pourquoi ? Parce que on a vu que maintenant en Afrique, au moins 64% de la population africaine, ce sont les jeunes.
Moins de 25 ans.
Voilà. Alors là, ces jeunes-là sont aussi une population vulnérable, par lequel un gros bon une grande proportion de ce de cette population là peuvent encore faire chuter
l'effort, la réponse.
Oui, voilà.
Est-ce que vous avez l'impression d'être prise au sérieux?
Pas évidemment, pas évident, parce que on dit toujours, on l'a toujours dit, que nous, il y a des besoins en fait spécifiques. Il y a un accompagnement particulier pour les jeunes, parce que bon, un enfant de 0 à 14 ans, c'est pas la même chose que de 19 ans, 24 ans. C'est pas la même chose. Alors pour cela, il faut dire que bon, surtout vous qui travaillez bon dans ce système là, je vous dis bien, les jeunes sont là pour que on puisse poser cet édifice qui manque pour ce qui est de l'amélioration de la prise en charge et la lutte contre le VIH, parce qu'on ne peut pas continuer encore être bon en mise à l'écart, parce que nous aussi on est concernés. Cette population là que vous un petit peu disons dénigrée par leur voix, mais maintenant là elle existe, elle est bien, et si vous prenez pas compte de cela, vraiment ça va être un petit peu compliqué, et là les efforts faits dès le départ vont retomber comme rien, quoi. Alors c'est pour cela qu'ils prennent en compte de cela dès le départ. Sinon, ça va un petit peu... Ouais.
On peut parler des attentes, on peut parler aussi d'une forme de colère. Docteur Louis Pizarro, tout à l'heure, vous aviez cité justement ces associations au début qui sont mobilisées, on sentait justement cet entrain. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas justement l'appropriation de cette attente au Sud? On entend des militants de plus en plus élever la voix, parler de leurs problèmes en connaissance de cause, ne pas laisser justement la parole à des ONG, à des gens qui viennent du Nord, mais vraiment s'approprier, parce que les besoins sont immenses. Je voudrais qu'on aborde maintenant la question peut-être des obstacles et de ce qui peut inquiéter. Docteur Louis Pizarro, si on dit demain les 14 milliards ne sont pas atteints ou juste atteints, est-ce qu'on va manquer d'argent pour lutter contre les pandémies ?
Absolument, et on en manque déjà. Alors, je pense que pendant plusieurs années, on a opposé d'un côté ce qui était le travail sur ces trois maladies qu'on appelait des approches verticales, c'est-à-dire concentrées sur une maladie, avec des approches dites horizontales qui avaient comme ambition de faire monter l'ensemble du système de santé vers le haut. Et ce qui est très important, et on l'a entendu aujourd'hui ce matin, c'est que en fait chaque pays a des priorités aujourd'hui de santé publique, priorité santé, c'est ce pays d'abord qui doit décider quelles vont être ses priorités, et non pas une organisation.
Des modèles collés.
Exactement. Donc d'abord, avoir un bon diagnostic et choisir entre le ministère de la Santé, parce que c'est l'entité qui est au cœur, et les usagers, quelles sont ses priorités. Mais on s'est rendu compte qu'on peut aujourd'hui mettre l'accent sur des priorités de santé et en même temps tirer le système vers le haut. Un exemple très simple, c'est, on parlait tout à l'heure de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, on a travaillé avec les collègues au Niger, que un des principaux obstacles qu'il y avait, c'était que le circuit pour la femme enceinte était trop compliqué. Elle devait aller se faire d'abord un counseling à un endroit, puis se faire dépister à un autre. Elle revenait voir la sage-femme, qui l'envoyait ensuite voir un médecin, qui la renvoyait au laboratoire. Ça pouvait prendre plusieurs jours. Parfois, les femmes viennent de loin. Ça coûte cher de venir jusqu'au centre. Et donc, beaucoup d'entre elles pouvaient, à un moment donné, partir. Et puis, en plus de ça, normalement, quand vous êtes enceinte, vous venez une, deux, maximum trois fois pendant votre grossesse. Ici, on leur demandait de venir régulièrement pour prendre leurs médicaments, etc. Ce qui voulait dire à la maison aussi que des gens posaient la question, mais pourquoi tu vas aussi souvent? C'est que tu es peut-être malade. Si tu es malade, qu'est-ce que tu as? Et avouer qu'on a le VIH reste aujourd'hui quelque chose d'extrêmement difficile qui peut entraîner que vous soyez mis à la porte. Et donc, on a réfléchi avec des collègues nigériens, on a travaillé avec des anthropologues du LASDEL au Niger, et on s'est dit peut-être qu'on peut faire ce qu'on appelle la délégation des tâches, c'est-à-dire proposer aux sages-femmes qu'elles, disons, concentrent ce travail-là. Mais ça, ça a un impact pour l'ensemble des femmes enceintes et pas que pour les femmes qui ont le VIH. Et donc, parce que toutes vont bénéficier aujourd'hui d'un circuit simplifié qui
et
va
mieux,
leur permettre
mieux adapté,
d'aller
surtout
vers le haut. Et donc, c'est ce type de solution-là aujourd'hui vers lesquelles il faut aller, hein, qui cible les priorités de chaque pays, mais qui renforce en même temps le système de santé.
Justement, trouver les réponses tout à fait adaptées. Cindy Udoyal, on parle des attentes, des besoins et peut-être aussi des manques. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui à Maurice pour mieux travailler, pour mieux échanger avec la communauté?
Ce qui nous manque, d'ailleurs, on a les ONG qui sont là, on fait très bien notre travail, on travaille tous en collaboration. Le message passe, on fait passer le message, mais peut-être que, comme à l'île Maurice, la criminalisation des drogues est très forte, parce que si une personne se fait arrêter avec une petite quantité de drogue, c'est directement de la prison, alors que ça aurait dû être canalisé vers les ONG, les centres de santé, et aussi pour le traitement de la méthadone, ça aurait dû être décentralisé au lieu de donner le traitement dans les stations de police.
Ah oui. Donc c'est agir justement sur le versant légal, le versant pénal, changer, communiquer avec les autorités pour qu'il y ait moins de répression et plus de communication et d'intégration.
Oui, voilà.
Et Amanda Douchimé, justement, dans les manques au quotidien, vous disiez, j'arrive dans une famille, les enfants n'ont pas à manger, c'est normal, ils ne peuvent pas prendre le médicament. Est-ce qu'on n'est pas tenté, des fois, de baisser les bras?
Ouais, c'est vrai, parce que quand on mange, on n'a plus de force, on n'a plus d'espoir. Et c'est évident que, vraiment, pour dire, tenir le cœur de cette personne, c'est impossible. Disons que, vraiment, ce que je demanderais, moi, c'est que vraiment, on soit un petit peu entendu là. Et que vraiment, les problèmes qu'on rencontre, surtout les efforts faits au passé, ce sont des efforts que moi-même je reconnais. Vraiment, je les reconnais. Alors, si pour qu'on reste sur ce niveau-là, et plus qu'on veut aller à une étape, plutôt plus considérable. Alors je dirais bien, disons que quelque chose doit être soit fait surtout sur cette population, sur nous, la jeunesse.
Sur la jeunesse.
Oui.
64% de la population en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Oui. Donc besoin de les intégrer à toutes les politiques. On arrive à la conclusion de cette émission. Objectif de développement durable numéro 3, santé, bien-être pour tous. Est-ce que pour vous, docteur Louis Pizarro, c'est un chantier, cette santé et bien-être pour tous, ou ça reste une utopie?
Non, c'est un chantier, sinon on serait pas là, évidemment. Et on va continuer à se battre là-dessus. En gros, il y a, pour conclure, pour moi, il y a trois éléments que j'aimerais bien qu'on garde en tête. D'abord, on a parlé là de, par exemple, maladies infectieuses, mais il y a des enjeux aussi très importants, notamment dans la région aujourd'hui, comme la santé sexuelle et reproductive. Et quand on parle des jeunes, la santé sexuelle des jeunes, par exemple, est quelque chose de très important. Et on est en train d'aller ensemble. Hier, avec Équilibre et Population, nous avons fait un atelier sur une démarche féministe d'intégrer le VIH à la santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Il y a une deuxième chose, on va sortir de l'opposition ONG du Nord, ONG du Sud, acteurs comme ci, acteurs comme ça. Aujourd'hui, en fait, on parle d'un problème de santé mondiale. Hein, on ne va pas le résoudre pays par pays, on ne va pas le résoudre acteur par acteur. Et nous, ce qu'on cherche à faire, comme Coalition Plus, comme d'autres, c'est de créer des communautés international d'acteurs, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver, et nous on considère que notre place est à l'intérieur de cette communauté. Et puis troisièmement, je pense que c'est important qu'on le garde en tête, c'est 14 milliards qu'on demande aujourd'hui, c'est quand même 16 millions de vies sauvées. C'est pas quelque chose de sorti de nulle part, c'est pas de l'argent, c'est des vies humaines sur lesquelles on se bat tous les jours, et on espère évidemment que la France sera au rendez-vous demain.
Alors, cette émission en était l'illustration aujourd'hui, puisqu'on avait trois femmes autour de ce plateau, je ne me compte pas dedans. L'implication des femmes, on a parlé justement de santé sexuelle et reproductive. Docteur Safia Toutiam, je sais que c'est l'un de vos dadas, cheval de bataille, justement. Plus on va intégrer les femmes dans cette riposte contre les pandémies, plus efficace sera cette riposte. Tout à l'heure, vous avez pointé justement la transmission de la mère à l'enfant, mais il y a aussi justement la femme au cœur de la communauté.
Je pense que la femme, c'est la plus vulnérable, mais également c'est la solution pour la riposte au sida. Impliquer la femme, c'est impliquer déjà plus de la moitié de la communauté. Mais je l'ai dit tout à l'heure, travailler sur la transmission mère-enfant, c'est travailler avec les femmes pour déjà réduire un tiers des nouvelles infections. Pour la prise en charge, je pense que toutes les cohortes montrent qu'il y a plus de femmes. C'est les femmes recherchent plus les soins. Aujourd'hui, je pense que l'orientation de la riposte au sida doit se faire en ciblant des sous-populations. Les femmes adolescentes, les femmes jeunes et adolescentes, les adolescents et les enfants, les populations clés les plus vulnérables, les personnes les plus marginalisées. Moi, je pense que c'est cette approche différenciée aujourd'hui qu'il faut faire et répondre aux besoins de chacune de ces populations pour réussir la riposte.
Des réponses pertinentes. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. On l'aura compris au travers de cette émission. L'enjeu, ce ne sont pas des milliards d'euros ou de dollars, mais bien des millions de vies. Merci à vous, mesdames, docteur Safia Toutiam, Amanda Douchimé, Cindy Urdoyal, et merci à vous, docteur Louis Pizzaro, d'avoir été aujourd'hui nos invités. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui la prépare et la fabrique chaque jour. C'est Toussamak et Ophélie Lassen pour la réalisation et les moyens techniques ici à Lyon. Marc Fichet, Didier Bleu à Paris. Demain, nous vous proposerons une série de reportages sur trois continents pour mieux comprendre les besoins, les actions communautaires dans le cadre de cette riposte. Reportage signé Igor Strauss et Sébastien Farcy. On se donne rendez-vous à demain et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier.